la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Il y en a plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Et je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, chers lecteurs et chères lectrices, merci d'être à l'écoute de votre émission littéraire, un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère. Nous sommes en direct ce soir pour vous parler de littérature de genre, thème qui m'était inconnu avant cet après-midi au moment de préparer cette émission. Notre chère Claire, qui perd un peu la boule à défaut de la récupérer au niveau de son abdomen, nous a concocté une sélection de littérature de genre qui n'a aucun rapport avec les genres littéraires. Attention, Larousse, qui au-delà d'être connu pour la chanson « Tu m'oublieras », tube français de 1999, décrit ses œuvres comme des œuvres écrites pour une finalité esthétique, c'est-à-dire qui provoquerait chez l'homme ou la femme le sentiment que quelque chose est beau. Nous allons donc peut-être parler de beauté. Je ne vous l'assure pas, car comme je vous l'ai indiqué en début d'émission, la personne qui a choisi le thème est désorientée. Et je ne parle pas ici des sens interdits qu'elle prend en voiture. Elle n'est pas désorientée, elle est bien là, les pieds dans la glaise. Salut Marlène.
Salut.
Pas trop compliqué de gérer Claire en ce moment ?
Un chouïa.
Un chouïa. Salut Valérie.
Salut.
Pas trop compliqué de te gérer ?
Assis très.
Et ouais, toujours. Salut Nico, qui fait son retour dans l'émission.
Salut.
On salue à distance Pauline qui nous écoute et qui est un peu malade. Alors on est décimé dans cette émission, mais on est bien là pour parler de cette littérature de genre. Et on va commencer avec Marlène, avec toi, avec un auteur qui se fait appeler SX, car il ne veut pas qu'on le reconnaisse, et pour cause. Il est chinois, et pour la parution d'un tel ouvrage, il lui a paru nécessaire de recourir à la protection d'un pseudonyme. Vu ce qu'il se passe dans son pays, on peut le comprendre. Nous allons parler du livre « Les portes de la Grande Muraille ». Sous le pseudonyme SX se dissimule une personnalité de renommée internationale née en Chine, qui a publié de nombreux romans, nouvelles, essais, dont une grande part a été traduite dans différents pays. SX vit aux États-Unis. Et Marlène, on va parler d'agents de cybersécurité pour le gouvernement chinois.
C'est ça. On est donc totalement dans un roman ancré dans la SF. Alors, donc avant tout, même s'il y a quelques références historiques qui permettent de connaître Pékin, sa construction, les quartiers, les dynasties qui s'y sont installées, les Qin, les Ming, les Han, il y a de nombreuses références à la culture chinoise. Et ça, déjà, c'était assez agréable dans le roman, parce que moi et la SF, en général, on n'est pas super copains. Donc je me suis dit, ouf, il n'y a pas que de la SF, ça va. Voilà, donc on a beaucoup de descriptions de culture chinoise. Les habitations, la façon de vivre, le respect des anciens, les mariages plus ou moins arrangés pour enrichir la famille, la façon de se comporter en couple, les relations, les repas. Bref, donc c'est un petit condensé de Chine. Et puis, en toile de fond, il y a une critique plus ou moins ouverte sur cette société de contrôle. On le sait, n'est-ce pas ?
Ouais, ça, on voilà. Le sait, oui.
On le sait.
Et même les Chinois le savent parce qu'ils sont en train d'aller dans la rue, pas que pour le Covid, mais aussi pour demander d'arrêter d'être contrôlés, pour la liberté de la presse. Enfin, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu actuellement en Chine.
Ouais. Voilà. Donc, l'auteur là, fait un parallèle, en fait, avec la révolution de 1989, là, qui est très connue avec la place Tiananmen, hein, mm-hmm.
le char.
Le char et le chinois habillé de blanc qui se plante devant, là, et voilà. Donc, cette référence, elle est présente tout au long du roman. Et donc, il y a une critique du contrôle qui existe. Alors, il est encore plus présent depuis la pandémie. Et c'est inscrit dans le roman. Donc, contrôle d'identité, Internet, en interne, quand on n'est pas d'accord ou qu'on intercepte des messages ou des recherches qui n'ont pas lieu d'être, on interne en hôpital psychiatrique, on met en prison ou même dans des lieux inconnus et y a des disparitions. Donc, tout ça, c'est cité dans le roman. C'est vraiment poussé à l'extrême avec le côté science-fiction, avec le contrôle des sorties, des échanges téléphoniques. C'est vraiment totalitaire, liberticide. Et donc, en fait, c'est poussé tellement au bout que le héros, on ne sait pas son prénom, parle à la première personne et explique qu'il travaille dans la cybersécurité et donc il raconte son job, le fait qu'il est là pour réfléchir aux recherches que vont faire les gens, quels mots ils pourraient utiliser, les contrer, les mettre dans un dictionnaire non autorisé, un anti-dictionnaire. Mm-hmm. Il contrôle donc que ce soit sur Internet, sur les téléphones, les réseaux, tous les systèmes de messagerie, de chat, etc. C'est pas les mêmes trop que chez nous, mais il cite les noms, je sais plus. Voilà, donc il est vraiment, vraiment, il doit faire ça et il est tout le temps obsédé par ça. Il fouille là-dedans. Il est même suspicieux auprès de sa famille parce qu'il a envie de les protéger aussi. Donc en même temps, il essaye de réfléchir à ce qu'il pourrait dire ou ce qu'il pourrait faire, qu'il pourrait les envoyer. Alors il dit l'expression prendre le thé. Si vous êtes invité à prendre le thé par l'État, c'est mauvais signe en général. Voilà. D'ailleurs, sa maman est invitée à prendre le thé et elle est internée à un hôpital psychiatrique, pardon. Donc voilà. Il y a tout ça. Il explique aussi les coupures téléphoniques de certains quartiers à des moments parce qu'il y a eu des dérives, les coupures Internet, les coupures. Enfin, voilà. Donc tout est décrit. Il est vraiment. Voilà. C'est tout un monde. Alors, c'est très pesant. Et vraiment, ce côté anti-libertaire, il est, mais il nous étouffe quoi quand on le lit. Alors, donc c'est quand même grâce à ce héros qu'on va rentrer dans une culture chinoise, même si c'est poussé à l'extrême. Et en fait, il va après rêver justement d'une nouvelle révolution. Voilà. Donc il imagine que ce qui s'est passé en 89 est de nouveau en train de s'écrire maintenant. Et après, c'est totalement de la fiction, donc je ne vais pas vous raconter sur tout la femme, parce que sinon ça casse tout. Mais voilà, vu que l'œil de Pékin là veille sur tout, absolument sur tout, le roman, c'est ça va aller jusqu'à l'implosion du peuple et une nouvelle révolution, et voilà, il va se passer plein d'autres choses. Et donc ce héros là, on va aussi vivre. Alors c'est un côté un peu moins. Alors ça permet de conforter le côté science-fiction et en même temps, ça nous montre vraiment des dérives qui pourraient potentiellement arriver, puisque c'est l'objectif de la science-fiction, c'est montrer quelles dérives on pourrait avoir. Et donc ce héros, il va se marier, il va divorcer, ce qui n'est pas très conventionnel, hein, mais voilà. Et il va vivre une relation sentimentale dans son couple qui est assez bizarre, parce qu'elle va se jouer par médias interposés. C'est-à-dire que sa femme, déjà, elle est présentatrice, animatrice télé, donc hop, on retrouve de nouveau les médias et lui qui est dans le côté contrôle des médias. Et leur relation, elle se cantonne à des... C'est vraiment bizarre. Elle se cantonne à des textos. Même quand ils sont couchés dans le même lit, ils n'ont pas de relation. Ils s'écrivent par texto, par téléphone interposé. Ouais, voilà, c'est très...
C'est très virtuel.
Ouais, voilà. Donc, sauf pour les repas. La seule petite respiration qu'on va avoir dans ce côté science-fiction, c'est que pour les repas, tout le monde est là et on a vraiment le côté culture chinoise où on partage, où tous les plats et tout, voilà. Et un autre autour d'un champ. Autour d'un champ... d'un champ que ses parents, ses grands-parents connaissent, etc., et qui vivent ensemble, puisque quand on est en Chine, on vit souvent avec les grands-parents dans la maison, les parents, enfin voilà. C'est... Et en fait, ce champ-là, il va donner le nom de ce champ au groupe chat de la famille pour les contrôler un petit peu et pour être sûr qu'ils ne dérivent pas. Et en même temps, ça nous permet d'avoir le côté « la révolution chinoise est en route » puisque le chant, il s'appelle « Porte, ouvrez-vous ». Et les portes de la cité, elles craquent sous la révolution. Donc en fait, tout est imbriqué, en fait. C'est assez impressionnant la façon dont c'est fait. Voilà, mais ce côté, même dans les relations, c'est virtuel, c'est tout est fait par médias interposés, ça peut déconcerter, mais c'est vraiment, on est vraiment dans la pure science-fiction. Quoi.
Oui. Alors, et non, parce que les dérives dont tu nous parles, finalement, elles existent déjà.
Surtout en Chine, avec tu es filmé. Si tu as traversé hors passage piéton, tu perds 10 points.
Oui.
Mais si tu as traversé au feu vert sur le passage piéton, tu gagnes 10 points de plus qui te permettent de pouvoir avoir accès à l'hôtel pour tes vacances que tu n'as pas droit si tu n'as pas été un bon citoyen. Donc, c'est même pas de la dystopie, c'est presque du...
Du Black Mirror.
Ouais, c'est même pas du Black Mirror.
C'est du réel, c'est de la réalité.
C'est flippant, mais c'est
flippant.
Il est de 2021, il me semble. Hein, donc, 2020 ou 2021, il est récent, donc il est...
Non, dépôt légal 22 pour la traduction française, donc
Oui.
Ouais, peut-être 21 pour 21. La première. Du coup, j'avais juste sélectionné le passage sur « Ils sont tous les deux dans le lit » et...
Nico, n'écoute pas, s'il te plaît. Mais...
Ouais.
Un bruit léger, précipité, retentit près de moi. Ma femme a son portable en main et de ses deux pouces tapote l'écran. Elle a l'air de titiller deux bouts de sein devant elle et moi, quand je tiens mon portable et appuie sur l'écran du pouce de la même main, est-ce qu'on dirait que je me tripote ? Les jeux sur portable, c'est un peu comme de la branlette dans la rue, le métro, les cafés. Tout le monde tripote son portable. Si ce n'est pas se livrer ouvertement à la masturbation, ça, en tout bien tout honneur et de manière parfaitement indétectable. Je m'envoie à moi-même une émoticône qui sourit avec la main devant la bouche et je me mue par une inspiration subite que Steve Jobs, inventeur du smartphone, devrait être un adepte de la masturbation. C'est vraiment trop drôle et je m'envoie encore un rire en douce. J'ai peur d'être entendue, je me retourne pour observer ma femme. Elle actionne son écran sans un bruit et de derrière son épaule, j'épie ce qu'elle est en train de regarder. Elle relit une conversation ancienne échangée avec je ne sais qui. Elle a envoyé un rire silencieux. J'ignore à qui il est destiné. Je ne l'ai pas reçu si proche d'elle. Je lui envoie un émoticône qui éclate de rire, puis à moi-même un autre qui sourit et je rigole de ce que je regarde en cachette à si courte distance.
Je suis d'accord, moi. Les téléphones,
c'est
ça reste...
l'anticipation.
Oui, non, c'est de la masturbation, là, les téléphones.
Voilà.
Ben, les futurs téléphones, ils sont en forme de God.
Ben, peut-être bien.
Ça, ils pour les hommes,
God de Dieu, tu veux dire ?
C'est ça.
God Dieu que... Xi Jinping ?
Oui, je ne me serais pas permis.
Ah, d'accord, ok. Il y a un peu de perversion aussi dans ce livre, quand il est tellement pris par son travail d'espionnage que...
En fait, ça monte au paroxysme où il se dit « Oh là là, c'est trop ». Et après, il va tomber de l'autre côté. C'est-à-dire qu'après, il se dit, il faut que je fasse pour que la révolution ait lieu.
D'accord.
Voilà, en fait, il va...
Et la révolution a vraiment lieu ?
Après, c'est...
On peut pas le dire,
honnêtement,
Nico.
Vu ce qui se passe, là, pour le coup, ouais, on est dans la science-fiction parce qu'on se dit, c'est trop bizarre. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent.
Ben là, la révolution a commencé à avoir lieu, mais j'ai vu les images de la police qui arrivait à Tokyo, Shanghai, et ben là, ils sont pas manifestés aujourd'hui. Ils n'avaient pas la place. Il y avait tellement de policiers qu'ils n'avaient pas la place d'aller dans la rue.
Ben, ça va être réprimé par le sang. Hein.
Ben, comme toutes les violence, dictatures...
C'est ça, 2 ans.
Ouais. Est-ce que c'est pas un livre ? Parce qu'il a... Du coup, il a un pseudo. Est-ce que le fait qu'il a un pseudo, c'est une façon aussi de révéler les consciences chinoises ? Ou d'appeler à ça, quoi.
Mais est-ce que ce livre est réellement diffusé et publié ?
En
vu
Chine,
tout ce qu'il coupe.
Ça, on sait pas.
Et voilà. Et vu qu'il coupe aussi les réseaux et que lui, son job, c'est vraiment ça. De couper tout ce qui pourrait permettre des discussions autour de sujets, alors je vais dire tabous, parce que mais c'est pas tabou, c'est interdit, quoi. Vraiment.
Oui, les sujets interdits, ouais.
Voilà. Donc, est-ce que même l'édition de ce type de roman, est-ce qu'elle est permise ?
Ah ben en Chine ça y est pas. Hein. Si
s'il
écrit des États-Unis avec un nom d'emprunt pour pas apparaître aux yeux du gouvernement chinois, c'est pas édité en Chine, hein, je vous rassure.
Il y a un passage où il
peut-être à Taïwan, mais
il se fait.
Peut-être.
Oui.
Il échange avec un pirate informatique entre guillemets qui a réussi à prendre contact avec lui et où ils échangent justement sur ce qui se passe, etc. Donc il y a quand même des ouvertures de communication, mais je pense très peu parce que tout le monde ne peut pas y avoir accès. Quand on voit les familles, elles sont comme nous maintenant, tout le monde a quasiment son portable, mais les portables sont tellement limités et restreints que je sais pas.
Voilà. Moi j'ai un frangin qui est resté pas mal en Chine là pendant la période Covid et un peu après, 2020-2021, il en est reparti là, il était sur Hong Kong, il est reparti parce que en fait son téléphone était systématiquement surveillé. Et donc chaque fois que je l'appelais, il me disait ça je peux pas en parler. Ça, faut pas en parler. Mais il me disait, mais sérieusement, Nico, arrête, quoi. Parle pas, quoi. Je dis, tu déconnes.
Non, mais après, ils finissent.
C'est fou, quoi.
Et oui, oui.
Mais enfin, on comprend pas, nous, en France. Ça, c'est un truc qu'on comprend pas. Mais là-bas, il faut faire super gaffe, quoi.
Mais il y a un mois, ils viennent de dire que pour les applications TikTok, qui est l'application la plus téléchargée dans le monde, et y compris en France, maintenant, toutes les informations, elles sont en Chine. D'un téléphone d'un jeune. Les contacts, tout. Les photos, tout. C'est quand même
mais c'est pas
c'est
étonnant.
Grave. Oui,
mais là, c'est vraiment bien décrit. Enfin, cette oppression, elle se contrôle tout, c'est hallucinant.
Mais dans ce que tu as lu et dit, oui, en sens, ouais, c'est un bouquin.
Quel âge ?
Oh non, mais là, c'est adulte. Hein.
C'est adulte.
Oh, ouais, ouais. Là, c'est adulte. C'est de la SF adulte, nous, on ne donne pas.
Ok, ben merci, c'est Zulma. Hein. Oui, j'imagine, vu Zulma. La couverture, c'est reconnaissable. Ok, merci Marlène, mais je vais continuer parce que je vais parler d'un auteur chinois, mais lui qui donne son nom. Et ouais, parce que lui, il n'a pas peur.
Il s'engage pas.
Lui, eh ben, il s'engage un peu quand même. Il s'appelle Yan Lang, il a écrit pour La mort du soleil. C'est un écrivain qui est reconnu en Chine, qui a eu aussi quelques soucis avec le régime, mais qui disait « Si je ne peux plus écrire, être en vie ne signifie plus rien pour moi, c'est comme être mort, c'est comme si j'étais mort ». Et pour ce roman, certaines métaphores peuvent faire penser à une critique de la société chinoise, même font penser à une critique de la société chinoise. La mort du soleil, c'est une dystopie où le héros principal est un adolescent chinois qui se nomme Li Nianyan, qui est connu pour être l'idiot du village. Alors, l'ouvrage est écrit à la première personne de cet adolescent et dure seulement une seule nuit. C'est un adolescent, cet adolescent qui va nous raconter l'histoire. Alors, il va commencer un peu comme un conteur traditionnel où il interpelle sur le premier chapitre les esprits des hommes, les dieux Bouddha, Bodhisattva, Guanyu, Kongming, Lao Tzu, le vieux maître taoïste, tout le monde. Il les implore, lui, l'idiot du village, au nom des siens, au nom de son voisin, qui est l'écrivain Yan Liang, qui a écrit ce livre, tiens, c'est étrange, et de citer les œuvres de ce grand écrivain, par ailleurs auteur du livre. Alors, oncle Yan a décidé d'écrire ce qui s'est passé cette nuit-là et est parti s'isoler dans la montagne. Mais au bout de 2 mois, il a perdu tout espoir de pouvoir écrire. Donc, lui va nous raconter ce qui s'est passé. Alors, tout d'abord, il va...
Lui ou lui le...
Lui, l'adolescent. Ah. C'est l'adolescent qui parle tout le long sur une seule nuit. Et les chapitres, c'est des horaires. Donc ça commence à 21h, 22h, 23h, jusqu'à 6h du matin où le soleil doit se lever, mais le soleil ne se lève toujours pas. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il va raconter l'histoire de sa famille pour qu'on puisse cerner les personnages. Son père, Li Tianbao, n'a qu'une obsession, c'est gagner de l'argent pour construire une maison en briques pour lui et pour sa mère. Et pour gagner rapidement de l'argent, quoi que de mieux que de la délation. Et oui, ça tombe bien car le gouvernement chinois ne veut plus qu'on enterre les morts. Il y a pas assez de terres disponibles. Ce sera donc crématorium pour tout le monde. Et si vous enterrez vos morts en cachette, on viendra ouvrir les tombes, les faire exploser. Et à l'époque, l'inhumation était importante pour le repos de l'âme. Alors pourquoi je dis à l'époque? Car en 1956, à l'arrivée au pouvoir de Mao, le gouvernement chinois a vraiment rendu les inhumations illégales afin de garder les terres pour la culture et préserver le bois utiliser pour la fabrication des cercueils. Donc déjà, il écrit un livre, le début ça commence comme ça, voilà, on imagine le régime chinois qui est quand même un peu fan de Mao en ce moment, ce que ça a dû procurer comme sentiment dans la population chinoise. Autre personnage, Shao, le directeur du crématorium, donc qui rétribue gracieusement les délateurs. Li Tianbao est donc délateur pour gagner vite de l'argent, construire sa maison. Là, il rencontre la nièce du directeur qui deviendra sa femme, et de là va naître notre narrateur, le jeune adolescent Li Nianyan. Qui nous le raconte a posteriori pour qu'on sache comment le couple s'est formé. Donc ses parents, finalement, tiennent une petite boutique d'objets funéraires. On reste, c'est la famille, hein, on reste dans le même secteur d'activité. Et elle va s'appeler le Nouveau Monde. Son père est spécialisé dans la vannerie. Sa mère fabrique des couronnes de fleurs, des figurines, des objets en papier découpé. Son père a arrêté la délation le jour où sa mère meurt. Il se rend compte qu'il veut l'inhumer. Et là, il se dit, mais comment je fais? Alors, j'ai fait de la délation toute ma vie pour les gens qui ont enterré. Donc, il va l'amener au crématorium devant tout le village pour montrer que non, c'était pas lui le délateur. Il l'amène. Et là, il dit, c'est pas possible, j'arrête. Il va quand même travailler pour cet oncle qui, en faisant brûler les corps, récupère de l'huile, donc de personnes mortes. Et tout le monde veut cette huile, que ce soit pour l'alimentation, pour faire marcher les usines, pour tout. Et là, son repenti va se dire, mais moi, je vais pas la revendre alors que ça vaut une fortune. Je vais la cacher sous une grotte. Il y a un ancien tunnel abandonné où il cache toute cette huile.
Pourquoi faire ?
Mais il essaie de se racheter une conduite, si tu veux. Au lieu de vendre l'huile qui va être récupérée pour faire cuire des frites ou faire marcher des machines, il se dit non, ça reste des êtres humains, donc je la garde, j'en fais rien, c'est
dénoncer,
sacré.
Dénoncer, c'est bien, mais vendre de l'huile, c'est mal.
Et ouais, c'est ça. Donc il est caché au fond. Donc fini la présentation de ces quatre personnages principaux, on va démarrer dans l'histoire. Donc, une étrange et redoutable maladie s'est abattue sur Gaoxian, c'est le village. Les humains dorment debout, ils sont somnambules. Dans cet état second, les hommes se jettent dans les puits et se noient ou bien se suicident. Dans cet état de semi-conscience, les paysans poursuivent inlassablement leur travail dans les champs, comme si le soleil ne s'était pas encore couché, pareil à des automates. Pour les gens les plus aisés, cela revient à continuer à vivre dans l'oisiveté et l'opulence. Vous voyez l'image de la société chinoise, du régime chinois. Puis arrive la violence, cette nuit de chaos total, cette crise de somnambulisme généralisé où tout est permis, vol, viol, meurtre, mais aussi aveux. Enfin, une guerre éclate entre les gens de la ville et les paysans, alors que le soleil ne veut toujours pas se lever. Donc les habitants de Gaoxian veulent revenir à l'époque Ming et recréer le royaume de la Grande Paix Céleste. Ils se reconnaissent à leur bandeau jaune, symbole de l'empereur, tandis que les hommes des villages brandissent le drapeau rouge des communistes. Vous voyez là la métaphore de l'opposition ville-campagne, passé-présent, pire système communiste. C'est un roman, finalement, c'est autant une fable philosophique qu'une fable politique. On pense à la révolution culturelle durant laquelle de nombreux crimes ont été commis, des gens ont été poussés au suicide ou simplement assassinés. On y retrouve les mouchards nombreux à cette époque. Les autorités en prennent pour leur grade aussi. Ils mangent, ils boivent, ils sont indifférents aux malheurs de la population. Ils nient bien sûr les faits. Ils jouent une mauvaise pièce dans laquelle ils se prennent pour l'empereur et sa cour. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, la première personne qui ose affirmer le contraire et dénoncer le chaos risque sa tête. Et les paysans veulent devenir des gens des villes parce qu'ils en ont marre d'aller travailler la terre pour les autres. Donc on revient à cette révolution culturelle de Mao où on prenait les paysans pour aller dans les villes, les gens des villes pour aller dans les champs, tout ça. Donc c'est un roman écrit en 2020. C'est un très très beau roman, c'est très poétique et une fois qu'on lit ce second degré, ces métaphores, c'est d'autant plus impressionnant que cette personne qui vit encore à Pékin. Il réside à Pékin. C'est un romancier chinois qui est né en 1958 dans une famille de paysans illettrés. Il est diplômé de l'université du Henan, de l'armée populaire chinoise. Il s'est engagé d'ailleurs dans l'armée pour échapper à sa condition de paysan. Et il a débuté sa carrière littéraire en tant qu'écrivain de l'armée. Sauf que ça s'est un peu mal passé, parce que vu ses écrits, il n'était pas tout à fait d'accord avec ce qui se passait. Il a été censuré pour la première fois en 1994. En 2002, il écrit « Bon baiser de Lénine » qui est immédiatement censuré. Il est chassé de l'armée. Là, ils lui disent « Bon, bah, c'est un peu trop, là. Bon, 94, ça allait. T'es resté, ça s'est bien passé. 2002, c'est trop, tu pars. » Il est resté. Il a écrit « Servir le peuple »,« Le rêve du village des Ding »,« Les jours, les mois, les années »,« Son joint à mon père », quatre autres livres. Et beaucoup de romans, de nouvelles qui sont qualifiés d'expérimentaux en raison de leur sujet ou de leur style qui lui ont valu de nombreuses et prestigieuses récompenses littéraires. Il a été prix Franz Kafka en 2014. Et voilà, je ne connaissais pas cet auteur et vraiment, tu vois, quand j'ai préparé l'émission et que je t'ai vu présenter cet auteur chinois qui est à l'étranger, je me dis, lui, il est encore sur place, il écrit ça. Ouais. Enfin, c'est flagrant qu'il fait appel à l'histoire de la Chine et pas forcément en bien. Donc c'est vraiment un livre que je conseille. Je vais vous lire pour finir cette chronique un passage. C'est aux éditions Piquier. 1h21, 1h50. Ma mère fit à nouveau bouillir de l'eau pour le thé. La première fois, elle avait mis 7 à 8 pincées de feuilles de thé. Cette fois, elle en mit 2 grosses poignées. Cela ressemblait à un bouillon médicinal, rouge foncé. Il s'en dégageait des vapeurs au goût rafraîchissant. Les feuilles flottaient en surface, semblables à des bouts de bois sur un fleuve. « Apporte ce bol chez celui que tu appelles cinquième grand-père. Apporte-leur du thé, que ceux qui ont sommeil en boivent. Surtout qu'ils ne s'endorment pas, sinon ils deviendront somnambules et alors qui sait ce qui adviendra ?» Je ne répondis rien, je ne bougeais pas, je regardais les yeux de ma mère, des yeux qui n'avaient pas sommeil, pareil à 2 bassins à nouveau emplis d'eau après avoir été asséchés. La frayeur n'avait-elle dissipé la brume somnambulique ? Les vapeurs du thé les avaient-elles lavées et éveillées ? Ma mère avait beaucoup de rides au coin des yeux, de véritables sillons. « Eh bien, vas-y !» Elle fit un pas vers moi, le bol du thé dansait devant moi. Ton père a fait du tort à ces gens, ton oncle également. Nous allons leur offrir ce bol de thé et notre faute sera réparée. Nous ne leur devrons plus rien. Il y a ça aussi tout le long. Il essaye de réparer les erreurs de son père. Son père essaye de réparer ses erreurs. Donc, sur toute cette histoire, sur toute cette critique du régime, notamment révolutionnaire de Mao, il y a aussi cette histoire de famille qui s'en veut d'avoir fait ça et qui essaye de réparer les choses alors que c'est le chaos total, qu'on pourrait simplement se cacher ou rien faire. Voilà. Et ouais, c'est très, très beau. Voilà. Je le conseille vraiment à tout le monde.
C'est surprenant.
C'est surprenant. Et ça donne envie de lire d'autres livres de cet auteur, rien que par l'aspect poétique des choses, même s'il n'y a pas forcément de critique envers le système. Voilà. Je le conseille à tout le monde. Valérie.
Ça va être dur de passer après vous. Je ne sais pas lequel des deux. En plus.
Je ne sais pas si j'ai bien choisi. Normalement, je choisis bien sans le savoir. Je voulais te proposer de nous présenter Le Temps des Grelons d'Olivier Mac-Bouchard.
J'avais une transition sans, sur...
Sur l'autre
Sur Valide. Mais
on va sur Valide. Tu veux qu'on aille sur Valide?
Non. On va parler des deux. De toute façon, je déconne. Évidemment, tu as préparé la bio.
Évidemment, j'ai pas. Oui, bien sûr.
Parce que pour une fois, je t'ai donné les livres assez en avance.
Ouais, il a fallu que. T'as vu, il a fallu que je lui dise si j'ai pas le livre, je prépare pas les bio pour l'avoir dans l'instant.
Obligé.
Mais c'est assez court. Olivier Mac-Bouchard a grandi dans le Luberon. Et quand tu vis, Nico, dans le Luberon, quand tu y nais, après, tu vis.
Tu vis où ? À San Francisco.
À San Francisco, évidemment.
Tout le monde le sait.
Et oui.
Bon, je vais aller vivre dans le Luberon.
Non, c'est quand tu y nais, là, c'est trop tard. Merde. Il est l'auteur au tripode du Dit du Mistral, première plume 2020, et du Temps des Grelons 2022. C'est son deuxième ouvrage. Alors, je voulais te demander si c'était de la science-fiction, de la dystopie ou pas. Est-ce que tu veux que je te lance ? J'ai peur de trop en dire si je te lance.
Non, tu peux me lancer, allez.
Allez, du jour au lendemain, partout sur la planète, c'est la stupéfaction. Les appareils photographiques n'enregistrent plus la présence des personnes. C'est à croire que l'univers saturé de nos présences a décidé de se révolter contre l'espèce humaine. Oui, c'est la quatrième de couverture, Valérie. Je te vois aussi des yeux. Mais toi, tu as lu le livre.
Non, mais j'ai pas aussi des yeux. J'ai levé les sourcils jusqu'à la troisième ride tellement je suis choquée.
Non, tu n'en as qu'une.
Oui, mais qu'est-ce qu'elle se voit.
Oui.
Et oui, mais c'est exactement ça. Alors, autant justement la quatrième de couverture pouvait laisser présager un bel ouvrage. La couverture est magnifique. Ça pouvait laisser présager un encore meilleur ouvrage.
J'aime pas quand tu commences comme ça.
Et puis, quand on a lu L'Édit du Mistral, on se dit, mais ça va être extrêmement fabuleux. Et je suis sur ma fin. Et je suis sur la fin aussi, puisque je l'ai pas totalement terminé, parce que je voulais pas avoir la chute pour éviter de spoiler. Mais... alors, l'histoire est hyper originale. Donc, effectivement, on est dans une... On peut considérer que ça se passe maintenant. Par contre, on n'est pas tout à fait dans la dystopie, puisqu'on n'est pas dans un futur. On n'est pas vraiment dans la science-fiction, puisqu'on... pour moi, dans le côté science-fiction et dystopie, on peut s'imaginer dans ce qui va se passer. Là, j'ai trouvé ça un peu gros. Donc, c'est... toutes les photographies disparaissent. Enfin, le genre humain... disparaît des photographies et des vidéos. C'est-à-dire que le journal télévisé, par exemple, on ne voit plus le présentateur, on voit le plateau, on voit tout ce qu'il y a sur les bureaux, mais on ne voit plus les humains sur les écrans et les photographies. Donc, jusque-là, il y avait un côté assez sympathique sur le début de l'histoire. Et après, les fameux grêlons, en fait, c'est que toutes ces données, en fait, de photos... sont dans un nuage, donc on peut considérer que c'est un cloud, très certainement, c'est pour éviter l'anglicisme, et arrive un moment où de ce cloud retombe sur la Terre, non pas des 1-0-1-1-0 de codeurs, mais des grelons. Et ces grelons, en fait, ce sont les humains qui ont été pris en photo, qui re-arrivent sur Terre. Et le premier groupe de grelons, justement, ça tombe bien que l'histoire se passe à Apt, puisque c'est le premier film des Frères Lumière qui se passe sur le quai de la gare.
Et d'usine.
Sortie d'usine, voilà. Et c'est donc tous les protagonistes de ce film qui sont là, comme arrêtés. Et la police dit, y a un flash mob qui a lieu à la gare. Alors, je ne sais plus si c'est Avignon ou Arles, j'ai un doute. Sauf que ces personnes-là sont comme hébétées, totalement endormies. Et petit à petit, on fait des enquêtes pour savoir qui est-ce qu'ils sont, parce qu'ils sont vraiment dans une sorte de vortex.
Ils ont perdu la mémoire et...
Ils sont comme endormis, en fait. Ils ont les yeux un peu voilés.
Somnambules. Tu vois le lien, tu l'avais.
Ouais, mais vite fait, alors.
Ouais.
Et en fait, ils découvrent petit à petit, par rapport au décor, par rapport à là où ça se passe, par rapport aux tenues, que Ils pensaient que c'était des gens qui reproduisaient ça, mais en fait, ils se sont rendus compte, les empreintes, les recherches, que c'était vraiment ces personnes-là. Et petit à petit, en fait, réapparaissent au lieu où les gens ont été pris en photo, de la première photographie, tous ces gens qui ont disparu. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, le frère Lumière a été pris en photo devant une grotte dans le Luberon, ben, pouf, il va réapparaître, il va devenir un grelon, et il va réapparaître à cet endroit-là, et il va falloir le sortir de sa, de cette espèce de torpeur. Voilà. Alors, sur le principe, c'était fabuleux. On voit Arthur Rimbaud revenir, c'est absolument fou, la façon dont il revient, et petit à petit, des machines se mettent à calculer pour savoir, parce que c'est chronologique aussi, ces arrivées de grelons, ces pluies de grêlons, qui va arriver ? Puisqu'on sait à peu près les photos, quand est-ce qu'elles ont été prises. On commence à se poser des questions. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand on aura l'avènement vraiment de la photographie? Et autant le sujet est absolument incroyable, autant l'écriture, mais c'est écrit à la première personne. Donc on suit l'histoire, on suit le livre dans les yeux d'un jeune. Donc on le suit de sa petite enfance, où les photos commencent à disparaître, jusqu'à son adolescence et son entre-deux, parce qu'il reste, il devient adulte, mais il y a quand même sa maman qui lui fait son banania tous les matins et sa floraline le soir. Donc une espèce de Tanguy des temps modernes. Et c'est, on suit son histoire, et c'est écrit donc à la première personne, et c'est écrit avec comme si c'était vraiment lui qui avait écrit dans son enfance, adolescence et en flûterie. Je ne sais pas si on peut le dire quand il est entre enfant et adulte. J'aime pas ce mot, mais j'ai pas vraiment accroché à. Et ça me rend triste parce que le sujet est vraiment chouette.
On peut avoir une bonne idée et la louper après à l'écriture.
Et c'est ce qui m'a manqué, en fait, dans ce. Enfin, je trouve que certains romans ces temps-ci qui sont sortis sont. Bourré d'idées, enfin, le sujet est extraordinaire, le propos est extraordinaire, et l'écriture me.
On va l'envoyer en Chine.
Ouais, c'est ça, parce que le sujet pourrait être bien, mais et en plus, c'est entrecoupé de chapitres, de modèles d'email, on ne sait pas, on imagine que c'est une espèce de.
Un peu
de
nouvelle écriture, un peu dynamique avec.
Ouais,
des choses
mais
comme
c'est même pas, c'était. Je sais pas, c'était. Il n'y a pas des jolis mots, il n'y a pas des jolis. Enfin, ça manque de poésie, tu vois. Ludo, là, quand tu nous parlais de ton livre, en disant quand même où il écrivait, très engagé, mais à la limite, ton sujet avait l'air un peu plus sérieux, moins funchy que le mien. Mais l'écriture avait l'air appréciable. Et là, tu le lis, mais sans.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Et tout le monde peut pas être écrivain, en fait.
Voilà.
Le premier.
Ça, c'est clair.
Parce que dans le dit du Mistral, il a écrit.
Ah, nous avons un appel d'Olivier MacBouchard
qui n'est pas du tout d'accord.
Il n'est pas d'accord.
Après, je pense que c'est un parti pris. Hein. Je pense que c'est justement. Il a peut-être. Allez, je vais faire son avocate, mais peut-être qu'il a voulu vraiment se mettre dans la peau.
Ton avocate, elle n'est pas très bonne, l'avocate.
Après, c'est une avocate à charge.
Bah, Tripode,
c'est à charge.
Ils font ça.
J'ai
un doute.
Parce que
décapitation.
Dit du Mistral, c'était vraiment bien. Là, en plus, il fait des clins d'œil, c'est-à-dire qu'on retrouve des personnages de Dit du Mistral dans ce livre-là. Donc, je suis convaincue que c'est volontaire.
C'est un choix.
Voilà, c'est peut-être sa ligne artistique. Hein.
Mais ce que tu dis, c'est vrai. Là, on est quand même sur trois livres qui sont écrits à la première personne. Mmh. Parce que c'est je. Mmh. Moi, je trouve que c'est l'exercice le plus difficile. Parce que, en fait, souvent, on se dit, l'auteur, il a écrit pour que nous aussi, on ait l'impression d'être le je. Et en fait, moi, c'est quelque chose où j'ai extrêmement de mal, quand c'est écrit à la première personne, de m'y mettre. Oui. Alors que justement, quand c'est écrit sur d'autres personnes, ou que c'est écrit de plus loin, c'est beaucoup plus facile, je trouve, d'y rentrer. Oui. Et au final, ce que tu dis, on peut aussi penser ça, quoi, que selon notre habitude de lecture, on est bloqué par ce jeu, quoi.
Complètement, ouais. Ça m'a pas. Enfin, moi, ça m'a pas.
Écoute, ça peut plaire à des personnes. Non, ça t'a pas plu. On l'a présenté.
Pour le sujet, il faut. On peut le lire. C'est.
Oui, tu parles du style quand même. De l'écriture,
après, c'est subjectif de dire. Mais après, pour le sujet, il vaut le coup d'être lu, parce que c'est quand même assez. Alors, ça va trop loin dans la dystopie pour qu'on puisse avoir des frissons. Enfin, tout à l'heure, je vous en parlerai d'un qui... j'ai encore les poils dressés un peu partout.
Fais attention, si tu parles 30 ans de celui-là, tu n'auras plus de temps pour l'autre.
Ok, donc j'arrête d'en parler.
Allez, c'était la maison d'édition, c'était qui ?
Le tripode, mais je l'avais déjà dit. Tu peux perdre du temps pour celui d'après.
Eh ouais, tu as perdu du temps pour celui d'après. Allez, Nico, l'art qui guérit, Pierre Lemarquis.
Ouais, Pierre Lemarquis. Alors, un très beau bouquin qui est... C'est pas un roman, hein. C'est une étude, comme une étude en fait. Mais le mieux, c'est que pour que vous compreniez l'intérêt de ce livre, en fait, c'est que je vous lise son intro. Un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais seulement de la médecine. C'est ce que dit Jean-Marie Le Clézio. Dans les années 70, le futur prix Nobel de littérature, Le Clézio, fuyant la vie agressive des grandes villes à la recherche de quelque chose, de quelqu'un qui le libérerait de ses obsessions, décide d'aller partager l'existence d'une communauté d'Indiens au Panama. Donc il part plusieurs mois au cœur de cette forêt amazonienne et où il s'imprègne de la culture de ses nouveaux amis. Et là, il se sent profondément transformé tant dans ses idées sur le monde et sur l'art que sur sa façon d'être avec les autres. De marcher, de manger, d'aimer, de dormir et même jusqu'à rêver. Il ne pensait pas rencontrer dans la forêt primitive avec ce peuple. Il ne pensait pas rencontrer dans la forêt l'art, tel qu'on la conçoit dans nos sociétés de consommation. En guise de tableau, il a vu les peintures corporelles, les arcs de palmes, les guirlandes de plantes parfumées, les statues et les panneaux de bois de Balza où sont peints les effigies des esprits, les bâtons magiques sculptés. Et il a découvert le soir, autour d'un feu environné de balais de moustiques et de papillons, chantant d'une voix aiguë, le regard exalté, les conteuses et les conteurs qui rythmaient le récit en se martelant la poitrine ou en frappant leur collier du plat de la main. Pour le Clézio, en fait, qui le rappellera dans son discours de Stockholm, dans la forêt des paradoxes, en 2008, lors de sa réception du prix Nobel de littérature, ces fêtes chantées par leur perfection formelle et leur puissance expressive étaient l'endroit du monde où, pour lui, l'art se manifestait avec le plus de force et d'authenticité. La raison d'être n'était pas seulement curative, mais aussi la recherche d'un équilibre perdu, d'une vérité universelle. Ce bouquin qui est écrit par Lemarquis, en fait, alors il ne parle pas que de Le Clézio, c'est sa préface, et il explique qu'en fait l'Organisation mondiale de la santé confirme l'intuition de Le Clézio. Et le 11 novembre 2019, en fait, paraît donc un document, un rapport, hein, qui est l'analyse de plus de 900 publications scientifiques qui abordent aussi bien la musique, en fait, tous les arts, les arts de la scène, les arts visuels, la littérature, la culture en général, et montre combien l'art active les sens, stimule l'imagination, les émotions et les fonctions intellectuelles, améliore les interactions sociales et pour certains l'activité physique. Il permet d'envisager la santé et le bien-être dans un contexte sociétal et communautaire élargi. Il propose des solutions là où la pratique médicale classique n'a pu apporter de réponse efficace.
Quelle époque, Le Clézio ?
Là, c'était 2008.
2008, d'accord. Ah. Oui, son discours, c'est 2008. Ouais.
En fait, l'art qui guérit, qui est fait par Pierre Lemarquis, qui est un neurobiologiste avec une préface de Boris Cyrulnik qui est assez exceptionnelle, traite de l'impact de l'art sur notre quotidien et comment l'art est essentiel et comment en fait si on se nourrit pas d'art en fait on peut être à la fois on peut être malade mais comment l'art intervient dans nos guérisons et dans le dernier rapport de l'OMS en fait il est préconisé que comme ce sont pas des solutions intrusives et médicamenteuses chimiques en fait qui nous font du mal hein, en fait qu'il faudrait dispenser l'art partout. Et personne, en fait, n'a lu le rapport de l'OMS, si ce n'est que là, c'est mentionné. Donc, moi, j'étais faire un tour dessus. Je trouve que c'est assez exceptionnel, après 2 ans de Covid, de sortir du Covid, de se dire qu'il y a quelqu'un qui est un biologiste, qui n'est pas forcément quelqu'un de l'art, qui a épluché toutes les œuvres durant plusieurs siècles, qui parle de Matisse, qui parle de Rembrandt, qui parle de Bosch, qui parle de tous ces grands artistes et qui explique comment il y a des gens ont été guéris par le fait d'aller voir des œuvres, d'aller dans des musées. Et ça m'a rappelé une conversation que j'ai écoutée un soir sur France Culture d'un médecin qui disait en plein Covid, c'était au mois d'avril, en 2020. Et il disait, ben, moi, je prescris à mes patients la visite de musée, la sortie au cinéma. Et il y a une dame qui témoignait, qui dit, oui, sur mon frigo, j'ai une ordonnance avec d'aller voir le musée tel jour, d'aller au cinéma tel jour.
C'est méchant d'avoir fait ça pendant le confinement, alors que tout était fermé.
Ouais, et quelle idée, là.
Et du coup, je trouve que ce bouquin, il est vraiment... Alors, c'est pas un roman, mais c'est un bouquin qu'on peut découvrir. À la fois, il est intéressant parce que dedans, il y a des œuvres qui sont expliquées, qui sont travaillées, qui sont...
Ça parle de Lacan.
Qui sont documentées très, très richement. Avec, voilà. Et en même temps, des situations et des rapports de gens qui ont témoigné sur les œuvres et quel effet ces œuvres ont eu sur eux. Ouais, je trouve que c'est pas mal de rappeler...
Ça s'adresse à qui ?
Bah, pour moi, je pense que ça s'adresse un peu à tout le monde. Ceux qui ne sont pas convaincus...
Valérie est aux toilettes.
C'est le zinc.
Continuer. Ah non, c'est le zinc.
C'est le zinc.
Et oui, elle se sert à boire. Oh, très beau.
Normalement, on est dans les bars quand on a...
Ce beau vin Sévenol. Pardon, ça aussi, ça soigne. Mais,
je te dirai ça demain matin.
Non, mais pour répondre à ta question, moi, je pense que ça s'adresse à tous ceux qui, sont, qui aiment l'art et puis ceux qui cherchent des solutions un petit peu partout. Alors, je pense aux EHPAD, je pense à l'ASE, qui, pour les enfants, cherche des solutions et des choses qui ne sont pas intrusives. Je pense aux foyers de vie, je pense à tous ces gens qui sont un peu écartés des œuvres et qui en ont fondamentalement besoin.
Ça, bon, l'art-thérapie, on connaît déjà, hein, mais c'est vrai que c'est poussé peut-être plus loin là, par rapport à ce que tu dis. C'est marrant parce que tu parles de ce bouquin-là. Il y a, dans la semaine, là, j'ai vu un reportage justement sur la mise en 4D de certaines œuvres d'art dans les musées. Là, il y a une troupe actuellement de théâtre qui fait vivre les œuvres en les rejouant et en faisant des extensions.
Des danseurs dans les musées. Je l'ai vu aujourd'hui.
Et les gens suivent. Et en fait, ils sont... alors qu'ils ont pris des gens qui suivent, qui n'auraient jamais suivi, en fait, et qui n'auraient jamais regardé les tableaux.
Et
là,
les
ils
tableaux.
Y vont, en fait.
Ouais.
Et c'est marrant que tu parles de ce documentaire. Enfin, on va dire documentaire, mais
oui,
c'est marrant
oui.
que tu parles de ça, parce que du coup, pour moi, ça fait écho à ce qu'ils essayent de faire actuellement, quand même. Il y en a qui en ont conscience, je pense. Mais il faut peut-être plus en parler, peut-être plus le développer, je sais pas.
Là, c'est plus peinture, sculpture, quand même, dans ce livre. Quand je feuillette les illustrations...
Oui,
on va pas sur...
C'est de la photo aussi, il parle... Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Après, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, mais c'est traité par paragraphe. Où il développe des concepts. Hein. Donc, il y a des choses qui sont un peu pointues, il y a des choses qui sont très, 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 très faciles à lire. Mais en tout cas, je trouve que c'est pour convaincre les enseignants et les médecins que l'art est essentiel. Et puis, bien sûr, nos gouvernements et nos élus que l'art est essentiel et qu'il faut mettre encore beaucoup d'argent dans l'art. Et moi, à entendre aujourd'hui les discours, ça me fait très peur parce que l'urgence climatique va focaliser énormément de moyens. J'ai peur pour les livres, les bibliothèques, j'ai peur pour les musées, j'ai peur pour les théâtres. Et je pense que c'est aujourd'hui, il faut dire très clairement qu'on a besoin d'œuvres et qu'on a besoin d'art. Donc c'est un super bouquin que je conseille. Et en plus, qui peut être très beau à Noël. Voilà.
Et c'est un moyen aussi de, pour certains pays, de. J'écoutais cette nuit, j'écoutais un podcast sur par rapport au Qatar, voilà, la Coupe du Monde, tout ça, que pour exister sur la scène internationale, ils avaient racheté des clubs, le Paris Saint-Germain, Coupe du Monde. Ils mettaient tout dans le sportif et ils parlaient des Émirats Arabes Unis qui, eux, se sont dit, nous, on va tout miser sur la culture avec le Louvre d'Abu Dhabi, tout ça. Oui, donc, c'était intéressant. Ouais. Ça peut même être un moyen de se faire reconnaître sur la scène internationale.
De toute façon, on sait que une des premières ressources du PIB en France, c'est quand même la culture, quoi, et les œuvres et le patrimoine culturel français. On n'aurait pas 80 millions de visiteurs par an si on n'avait pas le patrimoine qu'on a, ni les musées, ni tout ça. Hein. Et ça s'exporte dans le monde entier. Donc c'est bien la preuve que c'est fondamental.
Maison d'édition, Nico. La question piège. Tiens, ce n'est pas marqué.
Azan.
C'est pas Azan, regarde.
Allez, on va faire une pause musicale. Alors, c'est au pif, mais je suis tombé sur ce titre qui va pouvoir enchaîner sur la personne qui va présenter le livre d'après. Ce titre qui s'appelle « Try me ». Essaye-moi. Je ne sais pas qui c'est. Ce sera peut-être Marlène.
Oui, le sujet.
Et c'était à Yam Nobody pour Try Me, Essaye-moi, car c'est parti pour le moment sexy de l'émission. Alors, on vous l'a promis, durant les émissions, on va faire une émission sur la littérature érotique. Et là, Claire nous a dit, non, je suis pas prête. Là, c'est le mois d'après, on a dit, on va faire une émission érotique. Et Claire a dit, non, je suis pas prête. Et finalement, elle est jamais là. Et là, comme on s'est trompé de thème, chacun avait un thème différent, Marlène s'est dit,
c'est une émission érotique ou c'est une émission sur la littérature érotique?
C'est sur la littérature de genre.
Peut-être qu'elle est pas prête, et du coup, c'est normal.
Peut-être qu'on avait mal présenté le thème.
On a mal présenté, mais c'est pour ça qu'elle voulait pas.
C'est pour ça qu'elle voulait pas, je peux comprendre. Maintenant.
Et donc, Marlène, qui est arrivée en retard pour choisir ses livres, s'est dit, mais le thème, c'est la littérature érotique, donc je vais choisir ce livre Queen Kong d'Hélène Vignal. Alors, assumer ses désirs, affirmer sa liberté de jeune femme, s'émanciper du regard des autres, un roman intense, tranchant, issu de la collection L'Ardeur, qui parle sans détour de sexualité au lecteur adolescent. Attention, pas avant 15 ans, Marlène.
Oui, oui. Jeunes adultes, mais pas avant 15 ans. Oui. Mm. C'est une jolie collection de Thierry Magnier qui permet aux adolescents et aux jeunes adultes de parler de ce qui peut être un peu tabou, hein, parce que sexualité, voilà, c'est pas toujours...
De jouer avec leur téléphone.
Aussi. Et les objets connectés.
On a parlé pour le premier livre.
C'est ça. Et du coup, voilà, c'est une jolie collection. Après... voilà, c'est quand même très, 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 très rude quand même comme approche. Donc là, sur le roman de Queen Kong, on est quand même sur... donc, on est toujours à la première personne, pour pas changer.
Mais là, bizarrement, t'as réussi à te mettre dans le personnage.
Ben franchement, non, parce que ce qui lui arrive,
phrase est mal tournée. T'as arrivé à te mettre dans le personnage. Ah, donc, je suis désolé, mais ça le fait mal.
Ouais, Valérie, s'il te plaît.
Mais non, mais attention à ce que tu dis.
Pardon, c'était mal formulé. Je vais récapituler.
Oui, mais non, tu vas comprendre pourquoi.
D'accord.
Donc, au début, on a quand même une héroïne qui est absolument harcelée par texto, par tous ses amis du lycée, à propos justement de sa sexualité, de ses envies et de la vision erronée que tous les autres en ont. Et donc, elle ressent une énorme pression et elle ne reçoit que des textos. Et ben, de toute façon, c'est le harcèlement, hein. Donc vulgaire sur ce qu'elle fait, ce qu'elle est, et sur l'image qu'ont les autres d'elle. Donc non, je ne me suis pas mis du tout dans la peau de de cette pauvre jeune fille qui est quasiment tétanisée à chaque fois qu'elle regarde son téléphone parce que il y a des, enfin voilà.
Oh, j'aime les pas images, moi les livres comme ça. Ça met mal à l'aise, j'aime pas ça.
Mais clairement. Le thème de la sexualité, de la masturbation féminine, des questions d'adolescentes, du ressenti et de la pression sociale ou des groupes sociaux adolescents et du harcèlement, c'est vraiment ce qui ressort. Bon, le roman, il reste pas dessus le harcèlement tout le temps. C'est le fil rouge, certes, mais l'héroïne, elle va essayer d'en faire abstraction parce que le but, c'est qu'elle se découvre elle. Et elle assume totalement son besoin de liberté. Vraiment, on ressent dans l'écriture, par contre, pour le coup, dans le jeu, c'est facile de s'y mettre, là.
Écoute.
Parce que, elle a envie de ressentir des choses, elle a envie de découvrir aussi l'autre. Alors, là, l'autre, elle est hétéro, donc ça va être un autre masculin, mais honnêtement, on peut le lire en... Voilà, ça pourrait se lire dans les quatre sens, en fait, hein, si on est... Mais non,
ouais. Voilà. D'accord. Je réfléchissais aux positions.
Oui. Bizarre, non, mais je veux dire.
Il y en a plus.
On peut se reconnaître. Elle va nous raconter, en fait, quatre relations qu'elle a eues, quatre jeunes hommes. Le pourquoi de ces relations-là, ce qu'elle a eu besoin de ressentir et ce qu'elle a ressenti. Et l'image erronée qu'en ont eu en fait ces garçons-là, et l'image erronée qu'en ont eu aussi après le groupe, parce qu'en fait elle, du coup dans ce livre ressort toujours l'impression, en tout cas qu'elle a eue, c'est que toutes ces expériences qu'elle a fait en tant qu'adolescente, elles ont tellement été partagées après, notamment par ces hommes, parce que ces adolescents, parce que elle a rien partagé, elle voulait garder son expérience et ses ressentis pour elle, qu'au final, c'est tout un groupe qui la juge sur ce qui s'est passé et qui fait comme s'ils étaient là et qu'ils avaient vécu ça. Donc, en fait, elle a jamais l'impression d'être seule à vivre avec juste l'autre.
C'est un peu
groupe sociaux, quoi. C'est un peu...
C'est un peu sur le harcèlement aussi, alors.
Oui, mais...
Elle l'a dit, c'était le fil rouge.
Oui, oui.
Voilà. Mais t'étais...
Et ça se finit bien ?
Alors,
sans dire la fin, parce voilà, que moi j'aime pas les histoires comme ça qui démarrent comme ça.
Oui, c'est dark.
Comment ne pas ne pas.
Bah, c'est cru. Hein, c'est
alors comment
cru,
dire. En fait, c'est pas vraiment un roman érotique parce qu'il n'y a pas que ça. C'est pas un roman psychologique parce qu'il n'y a pas que ça. C'est un mélange des deux. C'est le pouvoir quand même de la pression comme ça et de la critique de masse. Et en même temps, on se dit, ça monte tellement en pression que comment elle va s'en sortir, peu cher, quoi.
Parce qu'il y a un autre regard après.
Et alors, oui, alors en fait, je sais pas comment vous dire sans que ce soit spoilé. Alors, le regard et le salut qu'elle va avoir finalement, c'est que en parallèle de ça, même si c'est très court et peu expliqué, elle nous dit quand même que donc, son père est un agriculteur. Et sa maman, je sais plus qu'est-ce qu'elle est, je crois qu'elle est institutrice, enfin je sais plus. Mais son papa est agriculteur et il est très très préoccupé par l'arrivée dans le village de personnes inconnues qui se sont installées dans une ZAD. Et le village est un peu scindé en deux entre les personnes qui ont envie d'accueillir ces inconnus et ce qu'ils défendent. Et
c'est un genre de clan, quoi.
Voilà. Et une autre partie du village qui est plutôt conservatrice et qui dit, non, ils nous volent nos terres, enfin, ça va pas, il faut. On en parle très, très peu, mais elle le souligne. Et du coup, ces inconnus de la ZAD, là, ça reste très lointain, sauf par la présence des hélicoptères ces caméras, soit ces gendarmes, on sait pas trop, mais bon, bref, de ce groupe-là qu'il y a autour de la ZAD. Et on en entend très peu parler. Et au final, sans dire la fin, c'est ce qui va la faire sortir de sa situation et qui va la sauver quelque part. Mais elle en arrive au point où elle raconte plein de fois qu'elle assume le fait qu'elle soit piétinée, chiffonnée et que maintenant elle soit plus rien, qu'elle soit morte. Mais vraiment, parce que le groupe social l'a trop pressurisée. Mais du coup, mais de là naît sa liberté. Elle peut vivre ce qu'elle a envie, ressentir ce qu'elle a envie de ressentir. Voilà.
Je crois que je préfère dire les grelots.
C'est tellement quand même.
Les grelots, on vient de le renommer.
C'est pour ça que c'est très c'est érotique sur certaines parties parce que les quatre passages où elle décrit ces quatre expériences sont très clairement érotiques. Et puis c'est détaillé et tout, mais dans ce qu'attendent aussi les adolescents, parce que c'est vraiment elle qui. Donc voilà. Mais après, ça interroge sur plein d'autres choses.
Et là, tu as deux livres de cette maison d'édition. Tu es en train de nous lire le tout petit ou le très gros?
Alors, le tout petit, c'est celui-là, le Queen Kong. Là.
Ah ouais, il faisait tout ça.
Il faisait 80 pages, en gros, quoi. Et l'autre, c'est un autre titre de la collection, mais on part pas sur la même chose. Enfin, on part sur des expériences beaucoup plus vécues.
Et c'est tiré d'une histoire vraie, celui-là? Ou d'une expérience, non?
Non.
D'accord.
C'est sorti de.
C'est fantastique.
Ouais, mais en même temps, tel que tu le racontes.
Mais ouais, c'est ça, avec la situation de Laza, tout ça, t'as l'impression que c'est une histoire vraie, quoi.
Et moi, je me dis, avec le jeu, quand tu racontes des expériences avec le jeu et que tu veux essayer de les faire passer comme ça, c'est que forcément, tu y mets de toi. Donc, à un moment donné.
C'est mis dans le personnage.
Ah, pas moi, mais l'autrice, oui.
De quoi? De toi? Moi, j'y mets rien
non,
du tout.
Non, parce que franchement, non. C'est pas non.
Ce roman, il est pépite d'or 2021 du Salon du Livre et de la presse jeunesse, prix qui vient sacrer le meilleur titre de l'année parmi les 20 en compétition.
Ouais. Mais il est... Si, honnêtement, on a envie de le lire jusqu'au bout parce qu'on a envie de savoir. Après, c'est des thèmes forts, quoi. Mais voilà.
Moi, j'ai pas envie. Hein.
Pareil.
Après, c'est.
Oui, mais c'est pour des jeunes de 15 ans, entre 15 et 19
c'est
ans.
C'est ça,
c'est mon âge. C'est pareil.
C'est notre âge avec Valérie.
Après, je pense que pour parler avec eux sur le thème du harcèlement, c'est peut-être un ouvrage qu'on peut aborder, qu'on peut leur dire, lisez-le, et à partir de là, on peut discuter dans les débats là qui se font beaucoup maintenant, au lycée ou même à l'université, puisqu'il y a aussi... Voilà, je pense qu'on peut, quoi. Mais bon,
il est sorti en 2021. Télérama a indiqué le texte d'Hélène Vignal est cru, sensuel, tranchant. Sa beauté vient de la simplicité de ses mots, de la révolte qui l'anime, du chemin d'émancipation qui l'ébauche. Voilà. Ah, tu veux lire un petit passage?
Allez. Juste là où il y a le...
Il nous reste 4 minutes d'émission, comme ça on termine sur ce passage.
Je rigole, Valérie.
Surtout qu'en plus, il est vu. Ce con de téléphone continue de tinter comme une cloche à chaque insulte. Et pour toujours, ce bruit de cloche sera en lui-même une insulte. J'aimais bien ce son quand je l'ai choisi. Ça faisait comme un gong de temple. un truc exotique. Ça me donnait l'impression d'être en Thaïlande ou je ne sais pas où. Ce son faisait de moi une sorte de reine à qui on annonce de la visite. Ce son, ce soir, j'ai plutôt l'impression d'être dans un temple où on va me lapider ou m'égorger sous les hurrahs d'une foule mystique. Leur religion, c'est quoi ? Leur dieu, c'est qui ?
Ok, merci, on va s'arrêter là. Merci Marlène de ta venue, merci Claire de tes propositions de littérature érotique, l'ardeur Queen Kong d'Hélène Vignal qui est née à Paris en 1968 au passage. Allez, deux derniers livres à vous présenter, Valérie.
On va parler du Marquis de Sade, Valérie.
Non.
Mais même pas.
Elle va parler... Ah, mais attends, Valérie, elle a quand même un thème...
Non, dis pas trop, c'est une autobiographie.
C'est une autobiographie. Ah, je dis pas, d'accord, je dis pas. Non, je dis juste que c'est Chris Bergeron.
Je voulais que tu me fasses la biographie pour que je puisse t'allumer en te disant « Mais t'es stupide ou quoi ? C'était alors, une autobiographie, t'as tout dit. »
D'accord, donc je vais te dire. Alors, je dis pas que c'est une autobiographie.
Oui.
Je dis pas que c'est cyberpunk.
Non,
voilà.
Tu me dis alors...
Alors, Chris Bergeron est canadien après ses débuts en journalisme qui l'ont mené à la direction de l'hebdo culturel Voir. Elle a mis sa sensibilité artistique au service des plus grandes agences de pub occupant aujourd'hui le poste de vice-présidente chez Cosette. Elle offre également des conférences sur les thèmes du leadership, de la diversité, de l'inclusion et des droits des personnes trans.
C'est pas mal. Je m'attendais à ce que tu ailles plus loin. Et c'est très bien. Tu es resté à ta place, mais tu n'as pas eu le temps d'aller plus loin.
Toujours.
Eh bien, c'était... Alors, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou si c'est... Mais ça m'a secoué. Ça m'a secoué, pourtant j'étais dans une phase du, enfin pas du ras-le-bol, mais du, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps j'avais parlé du G. Hitchcock, pareil, un livre qui se passait, c'était une fille qui faisait un monologue chez son gynéco, qui était en train de changer de sexe. Et celui-là, en fait, je l'ai lu, toujours pareil, bon, mauvaise compréhension du thème de l'émission. Je pensais avoir un roman de SF pur et dur dans les mains, et je l'ai pris, j'ai commencé à lire, sans lire le quatrième de couverture. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'on va ? Parce que je ne savais pas si Chris était un homme ou une femme, et en fait, je m'en foutais royalement. Et c'était l'histoire, je me suis dit, bon, c'est de la SF pure, puisqu'en fait, c'était ce Christian, puisque là, il se faisait appeler Christian, qui racontait à David. David, c'est son intelligence artificielle. On imagine que c'est un robot humanoïde. Il l'avait paramétré pour que ce David d'intelligence artificielle écoute ce que Christian a lui raconté. Et David se mettait en alerte, puisqu'on est en 2000, je crois, 40 et quelques, donc dans pas très longtemps. Il dit, non, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de raviver les souvenirs, tu n'as pas le droit, parce qu'on est dans un futur... où on est confiné tous les ans, de novembre à mars, où pour avoir des relations sociales entre les gens, on met comme des casques. Alors on a le casque semi-intégral quand on est un peu rebelle, hein, c'est-à-dire on a le droit d'avoir la pluie qui tombe sur soi. Mais sinon, on vit dans un monde qui est très similaire au nôtre, où on doit quand même faire attention à ce qu'on dit. On peut être censuré si on dit des choses... qui n'entrent pas dans le guide, enfin qui sont hors normes, hors cases. Et donc Christian, là, ce soir-là, il est à Montréal. Ça, c'est l'auteur a vraiment vécu au Canada. Et il raconte son enfance, donc qui naviguait entre la France et ce Canada français qui est demain. Hein. Et il raconte son enfance qui est la nôtre. Si on fait nos moyennes d'âge autour de la table, c'est pile poil notre moyenne d'âge. Sachant qu'on a un peu menti avec Ludo quand on a dit qu'on avait 15 et 17
ans. Ouais, super.
Pas grand chose. Et en fait, il raconte son enfance, il raconte sa mère, son père, enfin, vraiment. Et il raconte comment, il avait envie de jouer, il jouait tous à se déguiser. Et lui, il était attiré par les talents de sa mère et son père lui mettait une grosse trognole parce que. Non, tu vas pas devenir pédé, c'est bon quoi. Tu prends mes mocassins avec les glandes dessus quoi. C'est voilà. Il raconte ça et alors quand on n'a pas lu la biographie de Chris Bergeron ou quand on n'a pas lu la quatrième de couverture, on se dit mais il m'amène où là ? On est dans une dystopie mais totalement. On est dans le SF à 8000% puisque les rues deviennent c'est des pavés lumineux selon ce qu'on a dit, selon ce qu'on a fait. Les pavés prennent des couleurs différentes pour alerter quand même des sortes de milices pour se faire arrêter, parce que si tu dis des conneries, ben t'as tous les pavés autour de toi quand tu marches. C'est pas John Travolta pendant la fièvre du samedi soir, mais c'est tout devient rouge autour de toi. Ça veut dire que t'as fait une faute, donc tu vas être arrêté. Enfin, les rues ont des noms de lettres, des chiffres, parce que c'est un monde où les liberticides à fond, mais où on va, hein, enfin, qui peut être très très dystopique, mais pas inimaginable. Et donc le tout ça, c'était déroutant parce que c'était de la dystopie, de la SF, et en même temps, il y avait cette histoire de Chris qui racontait son enfance. Il y avait cette histoire de qu'on entend souvent et qui est chaque fois émouvante, de personnes qui se cherchent, qui à l'enfance, à l'adolescence, se cherchent. Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que quelque part, on s'en fout pas de savoir si t'es un homme ou une femme? Qu'est-ce que je veux être? Et qu'est-ce que la société m'impose que je sois? Et là, en fait, il nous raconte dans le roman, et c'est là où c'est troublant, il re-raconte, donc il a 70 ans, le jour où ça se passe, ce roman, ou 60, je sais pas, Ludo, je vois que tu regardes tes fiches avec fronçant les sourcils.
Je sais pas
noter. Mais peut-être tu es juste presbyte et tu ne vois pas très bien, c'est pour ça que tu fronces les sourcils. Et donc, il raconte donc son enfance, son adolescence, et puis sa transition. Et comment, en fait, suite à la fermeture de toutes ses libertés, de sa transition, il avait réussi à devenir Christelle, et comment, en fait, avec toutes les privations de liberté, avec ces mesures de confinement, avec ces interdictions de relations sociales, pour finir sa vie sans être mis en prison quelque part, enfin sans être répudié, il a dû redevenir Christian. Et pour moi, ce roman-là, il est à mettre entre toutes les mains des personnes qui
veulent devenir trans.
Oui, aussi. Enfin, oui, qui veulent devenir trans. Autres. Oui, enfin, bien sûr. Mais
c'est tout un parcours de transition, en fait, de cette personne qui. Mais en SF cyberpunk.
C'est incroyable parce que justement, il y a ce côté.
Autres pour comprendre ce qu'est ce parcours de transition aussi.
Et c'est une façon de le voir, en fait, c'est. Je fais un parallèle qui peut sembler un peu stupide, mais c'est comme si on avait dans la guerre des étoiles. Un personnage qui serait transgenre et qui où on suivrait au fur et à mesure.
Chewbacca?
Ah, tu touches pas Chewbacca. Mais pourquoi pas?
Prenons Chewbacca transgenre.
Voilà, il pourrait. Hein,
il pourrait. On connaît pas son sexe à Chewbacca.
Il fait ce qu'il veut. Mais c'est ça, c'est le trop de poils, on voit. et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que sous couvert de cette histoire de dystopie, donc rien que cette histoire de nous raconter le monde dans lequel Yael a vécu, qui est génial, hein, parce que c'est hyper flippant. Alors, par contre, c'est parce qu'on s'y croit, puisque c'est quelqu'un qui a notre âge, dans quelques années. Et ça, et avec son histoire, de son vécu de genre, c'est très beau, parce que ça dédramatise aussi pour les personnes qui seraient un peu contrariées par les personnes transgenres. On se rend compte, en fait, de la souffrance, mais c'est pas pathos, c'est pas un énième livre qui va juste dire je revendique si ça a été le parcours du combattant, ça, parce que je crois que maintenant on le sait, enfin il faut le combattre, il faut continuer à l'appuyer tous les jours, mais là on est sur de l'autobiographie, certes, mais avec le roman en plus, et c'est assez bouleversant, et je vous invite donc à le lire. Ça s'appelle Valide, c'est donc de Chris Bergeron aux éditions Philippe Ray, et même pour d'aller plus loin, d'aller écouter Chris Bergeron, qui maintenant est Chris féminine, hein, qui est une personne absolument magnifique, pour écouter ses témoignages, parce qu'elle fait vraiment porte-parole, je ne sais pas si c'est ça, mais elle raconte avec beaucoup d'humilité et beaucoup de tendresse, justement, tout ce qui a pu se passer, et le fait d'avoir écrit quelque chose, comme disait Ludo, punk, ça permet de le...
Ça a libéré.
Ouais, puis ça permet surtout, je pense, que tout le monde puisse,
comprendre,
puisse y accéder. Voilà, ouais.
C'est la première personne aussi. Je dis ça pour Marlène, pour savoir si elle peut le lire ou pas. Parce qu'elle a du mal.
Jusque-là,
c'est ouais, mais c'est la première
ça
personne.
Ça
part
de quel âge ? C'est adulte, ça.
Ouais, parce que ça peut être... Alors, par contre, l'écriture est très belle. Et,
tu peux pas nous lire un passage ?
Ouais, je peux.
Bah oui.
Je peux.
Tant qu'à faire.
Quand elle raconte le... Allez. Je n'avais pas préparé. Ah si, j'avais bien aimé là justement. C'était quand il racontait. Enfant, c'était plus facile. J'étais plein d'espoir. Dans mes dessins animés, les princesses sortaient toujours victorieuses des batailles qu'elles menaient contre les dragons. J'y croyais. Mais surtout, j'étais malin. Je savais que si je lui faisais assez de câlins, elle ne verrait pas passer les nuages gris qui venaient souvent brouiller mes yeux noisettes. L'amour maternel est presbyte. Il fait mal le point sur les objets trop proches. Voilà, c'est assez court, justement. Donc la mère est très présente dans cette histoire. Donc elle vivait une relation pas très sympathique avec le père. Et c'était assez rigolo, cette phrase. L'amour maternel est presbyte. Il fait mal le point sur les objets trop proches. J'ai trouvé ça très beau.
Merci Valérie, la maison d'édition.
Je l'ai déjà dit, si tu l'avais écouté, mais je vais le redire.
Parce que les gens, ils veulent savoir.
Eh bien, je vais le dire deux fois, maison d'édition, Philippe Ré.
Merci
d'édition, Philippe
Ré. Valérie. Allez, on termine avec un livre jeunesse. Je parle comme une rivière, Nico.
Ouais, c'est comme ça que je parle. Un album jeunesse de Jordan Scott.
Oui, c'est la bête. C'est la rivière. Pardon, vas-y.
Un album jeunesse de Jordan Scott avec des illustrations magnifiques de Sidney Smith. Donc c'est un bouquin qui vient d'étranger, hein, qui a été traduit, édition Didier Jeunesse. Magnifique ouvrage que j'ai adoré et qui parle en fait du handicap du bégaiement, mais sans vraiment en parler. Et comment un enfant se réveille le matin et je me réveille le matin avec les bruits des mots coincés au fond de ma bouche et moi, je reste muet comme une tombe. C'est comment les mots sortent, comment il a du mal à vivre son bégaiement quand il est tout petit comme ça. Un petit garçon qui a 8-9 ans, en fait, qui va à l'école. Et comment tout ça, c'est d'une énorme brutalité. Et la seule façon de le calmer, c'est quand son père s'en aperçoit, qu'il vient le chercher à l'école et qu'il le ramène au bord de la rivière. Il lui monte la rivière et lui dit, tu vois, toi, tu parles comme une rivière, parce que la rivière, à la fois, ça bouillonne, ça s'agite, c'est trouble. Par moments, c'est calme. Et donc, il plonge dans cette rivière. Et chaque fois qu'il est dans ce sentiment d'être, de pas y arriver, que les mots ne sortent pas, il retourne à cette rivière. Et après la mort de son père, il continue à aller. Donc, il explique à la fin du bouquin. Donc c'est
il grandit au fur et à mesure ?
Non. Non. Là, c'est vraiment quand il est enfant. C'est une histoire qui est assez courte, hein. Et il raconte qu'en fait ça l'a marqué et que c'est ce qui l'a un petit peu sauvé, quoi. Ça l'a sauvé et en même temps ça lui a montré sa singularité. Et ce que je trouve très beau dans le bouquin, c'est le fait de dire je bégaye, que chaque bégaiement est une forme d'expression, qu'il n'y a pas un bégaiement, mais qu'il y a des bégaiements. Et que c'est comme une identité, en fait. Voilà. Et lui, son identité, ben lui, il parle comme la rivière, quoi. Qui tourbillonne, qui s'agite. Et je trouve qu'il y a une alchimie qui est extraordinaire entre la douceur à la fois des mots. C'est très, très poétique, en fait. C'est très, très bien écrit. C'est très beau. C'est très simple. Et à la fois la mise en image de Sidney Smith qui est
c'est quoi, c'est de l'huile, on dirait de la peinture à l'huile.
Ouais, c'est une forme de peinture à l'huile. Je sais pas, ça fait penser à des aquarelles en même temps, peinture à l'huile. Il y a des pleines pages, ça me fait penser à de l'impressionnisme, quoi. C'est très très beau. L'enfant est pas très figuré, c'est un peu flou comme son langage. Voilà, c'est un bouquin, vraiment je le conseille.
C'est très beau.
C'est très très beau et voilà. Alors il dit plus tard, il faudra que je me souvienne de ces mots pour ne pas pleurer. Je parle comme une rivière. Quand je n'aurai pas envie de parler, je me répéterai. Je parle comme une rivière. Et j'ai parlé comme une rivière.
Super Nico. La maison Didier Jeunesse, c'est ça. Mais merci pour cette émission sur la littérature de genre. Pourquoi je ne sais pas. Merci Claire. J'espère qu'elle nous écoute même pas. Elle nous écoute pas. Elle n'a rien à faire. Ça passe pas.
Elle est bloquée dans la rue, en sens inverse.
Elle est en sens interdit.
Pauline a mis un transistor dans sa pièce préférée du moment. Elle nous écoute.
Ça va.
Bonsoir, Pauline.
Courage, Pauline.
Ouais. Pauline, on va le retrouver le 3 janvier. La prochaine émission sera en 2023, le mardi 3 à 19h. On ne sera pas en direct parce qu'on va faire une émission spéciale enfants. Pour une fois, ce ne sont pas nous qui allons présenter des livres, mais des enfants qui vont présenter des ouvrages qu'ils ont lus. On sera là quand même pour nous faire quelques chroniques quand même, parce qu'on a, on a envie de parler. Et donc, Pauline, on l'invitera à venir parler, présenter un livre d'ici là qu'elle aura lu pendant les fêtes de Noël, si elle lâche ses Harry Potter pour Noël, parce qu'on sait qu'elle les relit chaque année. Mais je pense que là, on a quand même un peu sous le pied pour nous présenter quelque chose. Merci, Nico, de nous avoir rejoints.
Merci à vous.
Allez, et on se retrouve donc le 3 janvier 2023. Bonne fête à toutes et à tous.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, il y en a plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Des livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.